Pentecôte arriva ce temps.
C'est un temps qui est une solennité pour Israël. Hein, ça fait partie des trois grandes fêtes d'Israël. Et c'est un moment, bien sûr, où toutes les familles juives sont invitées, exhortées à venir au temple pour célébrer donc cette fête. On l'appelle fête des semaines, on l'appelle aussi la fête des moissons. Elle coïncide avec la fin des moissons de froment, etc. Mais c'est un moment festif. C'est un moment où toutes les familles... Jérusalem, c'est déjà 80 000 habitants. Et là, il y a des milliers et des milliers hein, de juifs qui montent au temple. Et on peut imaginer bien qu'il y ait cette population qui arrive, je sais pas, 100, 120 000, 150 000 habitants comme ça. Hein, c'est comme dans des petites villes balnéaires. L'été, ça double la population. Et dans ces temps de fête, eh bien, la population de Jérusalem, bien sûr, va grandir. Et on se demande, mais pourquoi Dieu ne va pas-il répandre son esprit sur le temple, là où des milliers de juifs sont rassemblés, alors qu'il ne va faire attention entre guillemets que 120 disciples à peu près, on ne sait pas trop combien ils sont, autour de 120. Pourquoi Dieu choisit-il 120 disciples plutôt que de répandre son esprit hein, sur tout Jérusalem? Pourquoi ce matin, comme on l'a entendu, et c'est certainement également le constat de notre vie, pourquoi Dieu s'est-il un jour intéressé à moi? Apparemment, il y avait d'autres personnes autour de nous qui étaient beaucoup plus aimables, beaucoup plus enviables, beaucoup plus respectueuses, et pourtant, de la même manière, eh bien, Dieu a choisi de nous visiter. Quelle grâce, hein, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Alors, il y a au moins trois mots clés qui sont dans l'original, là aussi, du texte, qu'on va revoir ensemble pour que ce matin, on puisse nous-mêmes être renouvelés. Il y a trois mots clés, c'est ensemble, c'est tout à coup, et puis c'est tous. Ensemble, tout à coup, et puis tous, hein, qui peuvent répondre aux questions, mais comment ça s'est passé? Comment ça peut se passer dans nos vies? Quand ça s'est passé, et puis qui va bénéficier, bien sûr, de cette Pentecôte? Alors, verset 1er, il dit, ils étaient ensemble au même endroit. Ils étaient tous ensemble au même endroit. On connaît bien le concept depuis quelques années maintenant du vivre ensemble, hein, du bien vivre ensemble. C'est un concept hein, qui nous est proposé par notre gouvernement pour mettre en valeur eh bien certains éléments, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, la solidarité, etc., etc. Ce sont les valeurs de la République. Et on n'est pas foncièrement contre. Hein, il faut aussi, bien sûr, le dire. Par contre, lorsqu'il est question ici d'être ensemble, il est question d'abord d'un principe fondamental que Dieu va donner dès les premières pages hein, pour nous de l'Écriture. C'est cette réalité de l'unité. Voilà. C'est un principe divin fondamental. On va pas tout relire ces textes, mais je vous les cite. Genèse 2:18, c'est un des premiers textes. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu établit déjà ici ce principe fondamental. L'homme n'est pas appelé à vivre seul. Dans Jean 15, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et puis, vous connaissez la prière de Jean 17, 20. Je prie pour ceux qui croiront en moi, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux soient aussi un. À travers ce mot ensemble, Dieu nous rappelle que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont unis l'un avec l'autre, et puis il nous rappelle ce principe donc d'unité. C'est un principe d'unité qui est fondamental, que Dieu va établir dès les premiers temps de la création. Une deuxième pensée, c'est aussi plus qu'un rassemblement de plusieurs personnes en même temps, même pour une cause ou un objectif commun. Ici, pour nous quand même ce matin, c'est un signe visible de l'unité spirituelle, de l'unité de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est aussi un signe visible de l'unité des enfants de Dieu. C'est un signe visible également de l'unité de l'Église avec son Seigneur. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ ce matin, et l'épouse est unie bien sûr à son époux. Hein, dans Éphésiens 4, versets 3 à 6, il est quand même rappelé ceci, Éphésiens 4, versets 3 à 6, il est dit ceci, « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit. De même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en tous. Amen. Henry Ford, que vous connaissez certainement, en tout cas dans l'histoire, a dit ceci. Se réunir, c'est un début. Rester ensemble, c'est un progrès. Travailler ensemble, c'est la réussite. Voilà. Bon, ça a médité aussi, mais bon, je trouve que ça peut être aussi quelque chose pour nous intéressant. Se réunir, c'est un début. Rester ensemble, c'est un progrès. Travailler ensemble, c'est la réussite. Jésus unit, il réunit bien sûr ses disciples parce qu'ils sont désormais bien séparés de ce monde, séparés de l'état d'esprit de ce monde, séparés du péché, séparés de l'adversaire, et il faut bien les unir. La séparation ne suffit pas. Pour vivre quelque chose de fort avec Jésus, il faut être unis désormais à lui, unis les uns aux autres, pour que, ensemble, eh bien, nous puissions aussi vivre ces Pentecôtes, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient collectives, peu importe, on y reviendra tout à l'heure, mais en tout cas, pour que nous puissions rester ensemble. C'est un signe très fort de l'unité, bien sûr, du Seigneur. Et puis, c'est dans le livre des Actes, qu'on retrouve le plus souvent cette notion d'être ensemble. Alors, ça nous parle d'abord de duo. Il est dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Il nous est dit que Paul et Barnabas étaient ensemble dans la synagogue. Et quand on voit l'association Pierre et Jean, pour dire c'est quand même l'eau et le feu. Pierre a plutôt le caractère explosif, etc. Et puis Jean, bien l'apôtre de l'amour, etc. Et pourtant ils sont ensemble. Ils vont ensemble au temple, Paul et Barnabas, là aussi. Paul qui a ce ministère d'apôtre, un fonceur, et puis Barnabas qui est plutôt le fils d'exhortation, qui lui bien va savoir arrondir les angles. Et là encore, il y a une association qui, si Dieu n'était pas au milieu, n'aurait jamais peut-être existé. Mais pourtant, ils sont ensemble. Ça nous parle de diversité, de complémentarité. On est différents et pourtant on est ensemble. Et vous savez que l'unité, c'est pas l'uniformité. Même si des enfants, même si des militaires ont des uniformes avec bien spécifiques, bien chacun est différent. Puisque, comme notre frère l'a dit tout à l'heure, quand il y en a un qui a rencontré Jésus, on l'a mis dehors. Voilà, donc il était différent des autres. Et pourtant il avait le même uniforme à la base. Et être uni ne veut pas dire être uniforme, mais nous avons bien sûr nos différences. Et puis, ce mot ensemble nous rappelle également une mobilisation spirituelle, collective, où nous sommes capables pour des projets de Dieu, pour des choses qui nous dépassent, eh bien nous unir les uns avec les autres. Quand nous prions pour le salut de nos familles, je ne connais pas toujours nécessairement vos familles, vos soucis. Mais on va s'unir. Je veux dire, c'est un objectif de l'Église. Quand nous prions pour des frères et sœurs, qui sont éprouvés dans leur santé, qu'on les connaisse ou pas, on va s'unir. On va pas chercher à comprendre. Il y a une mobilisation, bien sûr, qui est spirituelle. On parlait tout à l'heure ensemble au temple dans la prière, ensemble dans les maisons pour partager, bien sûr, la communion fraternelle, ensemble aussi pour prendre des décisions spirituelles dans Acte 15, etc. Tous ces textes, ils nous sont donnés. Mais ce matin, celui qui nous permet de vivre, se vivre ensemble, nous permet aussi de prendre ces moments où ensemble, où nous sommes mobilisés spirituellement, où nous dépassons ce que nous pensons des uns des autres et où ensemble nous approchons du trône de la grâce pour prier, pour bénir, pour encourager, pour exhorter. Alors, sur ce terme ensemble, il y a au moins deux ennemis. D'abord, il y a notre chair. Vous la connaissez, notre chair? L'égoïsme, l'autosuffisance, je n'ai pas besoin des autres, etc. Je m'en sortirai tout seul. Le fait de penser qu'on est supérieur aux autres. Et il y a un texte qui nous dit dans Proverbes 18:1, « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est raisonnable. » Celui qui cherche, celui qui se tient à l'écart. Il y a un exemple aussi où la chair va se manifester, c'est Babel. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce moment. Il y a une seule langue. Et alors les hommes, bien sûr, se disent, eh bien, on va rester unis, d'accord, et puis on va construire un édifice qui va toucher le ciel, voilà. Et finalement, à travers cette expression, c'est l'excès de puissance, de démesure. On veut se comparer un petit peu à Dieu. Et vous savez ce qui va se passer là, ce moment-là, hein, Dieu va descendre et va confondre le langage. Il y en a un qui va parler anglais, l'autre japonais, etc. Passe-moi la truelle, et quand vous ne savez pas ce que c'est. Et finalement, leur ambition humaine va tomber à l'eau. Dieu là aussi, bien, va, à ce moment-là, bien disperser. Parce que la chair était, bien sûr, à l'initiative de cette tour. Et puis le deuxième ennemi, on le connaît, c'est le diable. Alors, c'est le diviseur, c'est le menteur, c'est le séducteur, et on pourra... Il y a encore d'autres qualificatifs hein, dont la Bible nous parle, mais c'est un ennemi justement du ensemble, du vivre ensemble. C'est celui qui va diviser, c'est celui qui va voir séparer, c'est celui qui va mentir, c'est celui qui va séduire. Et le diable est un ennemi du ensemble. Hein, mais ce matin, eh bien, on veut bénir le Seigneur ensemble, ensemble. Comment, Seigneur, puisse être renouvelé? Comment l'Église peut-elle vivre quelque chose? Eh bien, c'est ensemble. Et d'ailleurs, ce principe, pour moi, il est fondamental dans la vie de l'Église. Il est dit rapidement, acte 2, 42, ils persévéraient ensemble dans la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières et l'enseignement des apôtres. Ensemble, ensemble. Et ainsi, eh bien, cette Église va grandir au fil des temps. Deuxième mot-clé pour moi, c'est le tout à coup. Comment, Seigneur, et quand ça va se passer tout à coup? Il vint du ciel. Ça exprime bien sûr déjà la soudaineté. C'est quelque chose qui arrive subitement, d'une manière imprévisible. Personne à Jérusalem n'avait prévu cet événement. Personne n'avait prévu qu'à un moment donné, il y aurait un vent violent. Je ne sais pas s'il y avait des météorologues à l'époque, mais personne n'avait prévu cet événement. Pourquoi? Parce que tout le monde était concentré sur cette fête de famille, cette fête spirituelle, aller au temple, se réjouir. Hein, en général, ça durait une semaine, etc. Et on était préoccupé par les solennités, par les chants, par ce que la cérémonie donc allait produire. Et tout le monde est concentré sur ce temple de Jérusalem. Mais il y a un tout à coup. Il y a un tout à coup qui, par définition, va surprendre tout le monde, y compris les disciples. Les disciples, eh bien, sont eux-mêmes surpris. Oui, Jésus leur avait dit dans peu de jours. Mais peu de jours, c'était quoi? Une journée, une demi-journée, une semaine, deux semaines? Tout le monde est surpris. Tout le monde est surpris, y compris les disciples. Ils s'attendaient bien à recevoir quelque chose. Jésus leur avait promis la promesse du Père, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Et ils ne savaient pas comment cela allait arriver. Pouvons-nous encore croire qu'aujourd'hui, au tout à coup de Dieu, en effet, on est tellement, et moi le premier, on est abreuvé d'informations, d'événements, d'actualités, on est tellement planifié, organisé, etc., qu'on a peut-être encore parfois du mal à croire que Dieu peut bouleverser nos agendas. Dieu peut bouleverser nos... On en parlait avec Serge, hein, il nous le disait, hein. On part en vélo le matin, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et il y a des événements dans nos vies qui nous bouleversent, bien sûr, et qui nous déstabilisent. Mais ce matin, Dieu est capable de déclencher des tout-à-coups. Hein, le témoignage du frère, il y a eu un tout-à-coup dans sa vie. Hein, là, sur ce lit, après sa douche, il y a eu un tout-à-coup de Dieu qui l'a complètement, bien sûr, bouleversé. Et on bénit Dieu pour ce tout-à-coup dans nos vies. C'est quand même déjà pour nous ce tout à coup les prémices d'un autre événement, d'un autre tout à coup hein, qui va arriver. Et là, c'est pareil, on est prévenu, hein, on le sait. Jésus revient bientôt nous chercher. Et c'est ce qui est dit dans 1 Corinthiens 15, 51. Il dit que sur les nuées du ciel, au son de la dernière trompette de Dieu, nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil. Il y aura un tout à coup de Dieu extraordinaire. Et c'est ma prière. Je souhaiterais vivre ce tout à coup, voilà, hein, où on ne connaîtrait pas la mort, mais on serait transformé en un clin d'œil, et puis on partirait ensemble sur les nuées du ciel. Quel événement glorieux! Mais là aussi, on le sait, On le prêche, on le croit, on y aspire, on veut le vivre. Mais on sera surpris. On sera surpris. Alors, ça, c'est ma pensée. Ne serait-ce que la moitié des chrétiens seront surpris sur cette terre. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y aura peut-être la moitié qui dormiront pendant ce moment-là, hein, comme la terre est ronde, etc. Bon, c'est ma pensée, hein, je dirais. C'est pas une doctrine, mais on sera surpris. On sera peut-être en train de faire notre jardin, on sera peut-être, je sais pas, en train de lire notre Bible, on sera peut-être en train de jouer à un match de foot. J'en sais rien. Mais on sera surpris. On sera. En tout cas, ceux qui seront d'autant plus surpris, ce sont ceux qui vont rester, hein. Ah, là, ça va être la surprise aussi, hein. Et je sais pas comment ils vont réagir. On prie pour que Dieu, à ce moment-là, dise, waouh, il avait raison, il m'avait bassiné la tête avec ça pendant des années, et là, et qu'ils se convertissent, mais les temps seront troublés après, les temps seront difficiles. Mais en tout cas, bien, nous serons surpris, mais ce n'est pas pour ça que Dieu ne va pas nous enlever. Ce n'est pas pour ça que Dieu va nous visiter. Amen. Et il le fera. Et puis, c'est tout à coup, eh bien, il inaugure, bien sûr, une nouvelle ère. C'est un bouleversement qui est constructif. C'est un bouleversement, là aussi, eh bien, qui, pour les disciples, est d'abord, ici, dans Acte 2, c'est un bouleversement ecclésial qui concerne l'Église. Hein, puisque la Pentecôte, on le sait, va inaugurer, eh bien, la naissance de l'Église. Jésus en est la tête, hein, l'époux. Et on pourrait dire que le Saint-Esprit en est le témoin aussi, bien sûr, privilégié. Qui console, qui inspire, qui ce matin nous soutient, nous conduit, nous renouvelle. Et aujourd'hui encore, on a besoin d'être renouvelé. Je parle en tant qu'Église, hein. Alors l'Église avec un grand E, mais l'Église locale, etc., peu importe, dans la vie de l'Esprit, dans le baptême du Saint-Esprit, dans les dons de l'Esprit, dans Galates 5, 22, hein, le fruit de l'Esprit, et puis 1 Corinthiens 14 nous parle des dons de l'Esprit. On a besoin en tant qu'Église de Jésus-Christ d'être bouleversé. Quand nous vivions un tout à coup de Dieu qui vienne du ciel et que nos cœurs soient renouvelés. Et on y aspire, on prie pour cela. On prie pour cela. Parce que nous voulons connaître davantage du Seigneur. Acte 9, 3. Acte 22, 6 nous parle d'un autre tout à coup. C'est celui que va vivre un certain Saul de Tarse. Un persécuteur des chrétiens. Quelqu'un qui était zélé. Mais il dira plus tard, j'agissais par ignorance. Il ne savait pas. Et pourtant, Dieu aurait pu dire, eh bien, puisque tu as persécuté des chrétiens, puisque tu t'es opposé à mon église, puisque tu as même peut-être mis à mort, eh bien, jamais tu me connaîtras. Et pourtant, il y a eu un tout à coup également dans sa vie. Quelle grâce! Le tout à coup de Saul de Tarse. Il a dit, une lumière qui venait du ciel resplendit. Il y a eu un bouleversement personnel. Il y a eu un demi-tour complet dans la vie de Saul de Tarse. Sa croyance religieuse a été bouleversée désormais, elle est remplacée par une foi en Christ qui est vivante. Sa théologie, sa compréhension de Dieu est bouleversée. Le persécuteur va devenir persécuté, on le sait, plusieurs fois lapidé, laissé pour mort. Et il y a des moments dans nos vies où Dieu permet, suscite des bouleversements. Le plus grand qu'on ait connu quand même, c'est quand même notre conversion. Et heureusement qu'il y a eu ce tout à coup de Dieu. On pourrait tous dire, oui, bien, il y a eu certainement des dizaines, des centaines de chrétiens qui ont déjà prié pour nous, etc. Et puis il y a eu un tout à coup de Dieu. Et dans nos vies, il y a eu un bouleversement, il y a eu un changement. Hein. J'ai rencontré Jésus, on l'a dit aussi. Moi, dès que j'ai rencontré Jésus, je faisais quelques études, je mettais Jésus partout, sur ma trousse, sur mes cahiers. Comme un gamin, quoi, je veux dire, c'est un truc d'ado, ça. J'étais tellement content d'avoir rencontré Jésus que, ben voilà, et puis vous avez fait la même chose, hein, d'une autre manière. Oui, il y a eu un bouleversement dans nos vies. Plaise à Dieu que le Seigneur, eh bien, chaque jour, renouvelle notre bouleversement personnel. Amen. Qu'il puisse là aussi continuer à transformer nos vies, hein, chaque jour. Et puis, acte 16, 26, nous parle d'un autre bouleversement. Un autre tout à coup de Dieu, qui a secoué bien des personnes aussi, c'est celui que va vivre en prison, lorsqu'il est emprisonné. Et là, il dit qu'un tout à coup, il y a eu un tremblement de terre. Et ça a secoué tout le monde. Les prisonniers, le geôlier, etc. Et là, il y a eu un bouleversement familial. Pourquoi ce geôlier a-t-il été aussi rapidement baptisé ? Il aurait pu quand même attendre un petit peu. Eh bien, c'est tout simplement parce que je le dis souvent, ce geôlier était plus prisonnier que les prisonniers. À l'époque, on n'était pas gardien de prison comme maintenant. On faisait 8 heures et puis on rentre. Le logement était sur place, sa famille était sur place. Il vivait H24. Et si un prisonnier s'échappait, bien il répondait de sa vie. Donc cet homme était condamné, entre guillemets, à rester geôlier toute sa vie, là, dans cette prison. Alors, bien sûr, mais quel bouleversement. La Bible nous dit bien qu'à travers cela, il a été bouleversé, sa famille s'est convertie, ils ont été baptisés, et ils ont continué leur vie, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, ils ont changé de métier ou pas, mais peu importe, ils ont été des témoins certainement pour tous ces prisonniers. Amen. Des bouleversements familiaux, là aussi. Hein, nous prions, nous aspirons pour que dans nos vies, il y ait des bouleversements. J'avais noté justement ce changement, ce témoignage. Un frère qui était gendarme à l'époque, donc c'était à Royan. Et à Royan, à cette époque, je ne sais plus, il y a eu un tremblement de terre. Et toute la caserne de gendarmerie a tremblé. Et tous les gendarmes se sont retrouvés au milieu de la cour. Alors ce frère maintenant, à l'époque, donc ce gendarme, a pris sa femme dans ses bras et lui a dit « N'aie pas peur, c'est un tremblement de terre ». Mais il lui a dit, pendant que je disais ça, j'avais la trouille de ma vie. Bon, mais c'était le gendarme. Hein, n'aie pas peur, des grosses moustaches, vous savez, comme les anciens gendarmes. N'aie pas peur, c'est un tremblement de terre. Et je crois que c'est sa femme qui a dit au lui, eh bien, à partir de ce moment-là, on va retourner à l'église. Et il a dit une parole qui l'a surpris sur le moment, mais pas n'importe quelle église. Parce que lui ne connaissait que l'église catholique. Mais ils ont dit ça, ils ne savaient pas trop pourquoi. Et en étant de planton devant la gendarmerie, je crois, là, une semaine après, quelqu'un passe devant lui, il parle avec lui, et puis donc il s'aperçoit que cet homme vient de perdre sa femme. Alors le gendarme qui était de faction lui dit « Écoutez, toutes mes condoléances, vous devez être triste. » Et cet homme lui dit « Oui, c'est vrai, de la tristesse, mais j'ai aussi de l'espérance, j'ai de la joie parce que je sais où ma femme est. » Alors ils ont parlé un petit peu, le gendarme est de faction, il est de planton, donc devant sa caserne, hein, je veux dire, mais il lui témoigne, et puis à partir de là, il l'invite à une réunion évangélique, et à partir du moment, ils se convertissent. Suite à un tremblement de terre, c'est extraordinaire quand même, hein, comment Dieu peut faire aussi les choses. Alors, eh bien, que ces tout à coup divins puissent nous bouleverser, en tant qu'église, en tant que famille, en tant que personne, mais nous pouvons aussi nous attendre parfois à des tout à coup de Dieu, ne les rejetons pas. Hein, me dire, oh Seigneur, c'est trop dur, c'est trop difficile ce que je vis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre à travers ce tout à coup, ce bouleversement, pour que je puisse moi aussi grandir et mieux te connaître. Et puis, la dernière pensée, il est dit ceci, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. J'aime bien ce troisième mot-clé, tous. C'est une promesse que Dieu d'abord va accomplir. Combien sont-ils? Qui sont-ils? On ne sait pas exactement, il y a des apôtres, il y a Marie, il y a des femmes, il y a Nicodème certainement, Joseph d'Arimathée, je ne sais pas, il y a d'autres noms, etc. Ils sont environ 120 certainement. Et là je me dis, mais Dieu a choisi ces à peu près 120 plutôt que ces milliers, ces dizaines de milliers. C'est extraordinaire, Dieu va tenir sa promesse. Ils vont tous être remplis du Saint-Esprit sans aucune exception. Il y a peut-être des jeunes, il y a des vieux, il y a des intellectuels, il y a des manuels, il y a des plus riches, il y a des plus pauvres, il y a des hommes, il y a des femmes, etc. Mais le choix de Dieu est sans appel. Tous vont être remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire que chacun, personnellement, de manière individuelle, va être rempli du Saint-Esprit. D'ailleurs, il est dit qu'un détail, les langues de feu vont être comme séparées et se poser sur chacun d'entre eux. Il y a une notion là aussi où chacun, eh bien, va recevoir quelque chose, bien sûr, de la part du Seigneur. Il y a une bonne nouvelle ce matin, c'est que la mémoire de Dieu n'est pas défaillante. Sa puissance est sans limite pour nous. Il nous connaît exactement, nous qui nous sommes. Vous rendez compte, on est à peu près 8 milliards de personnes. Et avec tous ceux qui sont nés avant nous et avec tous ceux qui vont naître encore après nous. Et Dieu connaît exactement chacun d'entre nous dans les moindres détails depuis notre naissance jusqu'à notre parcours avec lui, etc. Dieu connaît tout. Vous rendez compte? Nous déjà, pour avoir quelques infos sur une personne, c'est, Dieu sait tout. Personne n'est oublié. Nous sommes tous dans sa mémoire une promesse accomplie. Si ce matin Dieu vous a fait une promesse, eh bien, attendez-la. Persévérez. Attendez dans cette promesse, parce que Dieu, eh bien, achève toujours ce qu'il a commencé. Tous, c'est donc le chacun. Tous égale chacun, j'ai mis. Et vous connaissez le syndrome de l'hôtesse de caisse. En tout cas, il y en a un que j'ai découvert. c'est l'impression à la fin de la journée d'avoir été transparente. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde, hein. D'ailleurs, c'est toujours la pauvre, c'est toujours elle qui prend dernier dans la chaîne. Mais certains disent, ben, à la fin de la journée, j'ai l'impression d'avoir été transparente. Oui, j'ai dit bonjour, j'ai dit merci, j'ai dit ça fait tant. Mais c'est comme si ceux qui sont passés devant ma caisse ne m'ont pas vu, pas regardé. Ouais, c'est une hôtesse de caisse. C'est terrible ce sentiment après une journée de travail qui est difficile. Moi jamais j'irai travailler derrière. Je pourrais pas. Ça va être un travail là aussi très très dur, très compliqué. Et pourtant, certaines ont l'impression à la fin de la journée d'avoir été comme transparent. Vous n'êtes pas transparent devant Dieu. Vous n'êtes pas transparente. Le ensemble pour Dieu ne noie pas le groupe. Nous ne sommes pas noyés dans la masse. Dieu nous connaît de manière individuelle, chacun. Et il y a ce beau psaume 139, verset 14, qui dit ceci, « Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. » Ça, vous pouvez vous le répéter, je sais pas, moi, 10 fois par jour, si ça vous plaît. C'est une réalité. C'est pas de l'orgueil. C'est pas dire, wow, « Waouh, je suis plus que les autres. » Non, c'est une réalité spirituelle. Jésus nous voit de cette manière. « Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. » Mon identité en Christ ce matin me permet d'avoir accès aux mêmes grâces que mes frères et sœurs. Aux mêmes grâces, aux mêmes promesses, aux mêmes bénédictions. Hein, je vous lis quelques textes, acte 1, 14, tous d'un commun accord. Acte 2, 39, la promesse est pour vous tous. Acte 2, 44, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Acte 2, 46, tous ensemble, chaque jour. Acte 43, une grande grâce reposait sur eux tous. Et puis, je termine, ce mot tous nous parle de l'image du corps. Vous relirez bien sûr dans 1 Corinthiens 12, 12 à 25, le corps, comment il est constitué. Il y a un ensemble, bien sûr, hein, mais il suffit, et on le sait très bien, que des fois, une toute petite rage de dent, ou simplement le petit doigt qui est un petit peu douloureux, on est rapidement handicapé. Parce que chacun de ces organes a son rôle, a son importance. Hein, vous connaissez la devise des mousquetaires, tous pour un. Et un pour tous. Alors, c'est pas biblique, on est bien d'accord, hein, mais ça peut aussi parfois nous aider. Et puis cet autre qu'on cite souvent, seul pour aller plus vite, ensemble pour aller plus loin. Ensemble pour aller plus loin. Alors je conclue, j'avais mis une date, et puis le frère m'a dit, il me faut aussi un verset. Donc j'ai mis aussi un verset, voilà, hein, il a raison. C'est ce que Pierre va proclamer. Il va dire, voilà, parce qu'il est interrogé après la Pentecôte, on pense qu'ils sont ivres, vous connaissez l'histoire, il est 9h du matin, etc. Bon, mais voilà ce que va répondre notre frère Pierre. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Sur mes serviteurs, sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut, dans le ciel, des miracles sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée de ce jour, du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Amen. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pierre témoigne, eh bien, de l'effusion du Saint-Esprit selon la promesse de Joël. Et cette Pentecôte, eh bien, est arrivée il y a 2000 ans. Mais aujourd'hui encore, eh bien, nous ne sommes pas figés, Dieu n'a pas figé sa parole, et chacun d'entre nous, individuellement, au niveau de l'Église, eh bien, a besoin d'être renouvelé sans cesse dans la vie d'esprit. Et j'ai mis une date, je sais pas si elle vous dit, t'as pas mis la date? Bah, la date, c'est le 1-1-1901. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé le 1er janvier 1901? Ah! Alors, ça se passe au Kansas, à Topeka. Le Kansas, quand j'ai regardé la carte, j'ai dit, Dieu vraiment est stratégique, hein, c'est pratiquement au plein milieu des États-Unis. C'est extraordinaire, hein. Que se passe-t-il là? Eh bien, un groupe d'étudiants doit déterminer quelles sont les preuves bibliques lorsque l'Église primitive a reçu le Saint-Esprit. Voilà. Hein, le professeur a donné un devoir, dit, écoutez, pendant vos vacances, là, vous allez plancher sur le livre des Actes et puis voir un petit peu quelles sont les preuves bibliques du baptême du Saint-Esprit, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, etc., etc. Alors, ces étudiants, ils vont étudier. Ce sont des étudiants, ils étudient, mais ils vont aussi prier. Ils vont louer le Seigneur, ils vont s'attendre à lui, chercher sa face, etc. Et puis, ils vont faire une veillée de prière, le 31 décembre, hein, 1900, ils font une veillée de prière, et le lendemain, à nouveau, une soirée de prière, donc le 1er janvier 1901, Et là, dans ce moment, une jeune étudiante, Agnès Osman, eh bien, se sent poussée à demander qu'on prie pour elle, pour qu'elle reçoive le don du Saint-Esprit. On va prier pour elle, et immédiatement, elle va recevoir le Saint-Esprit. Elle va parler en langue, et à partir de ce 1er janvier 1901, eh bien, le feu de la Pentecôte va se répandre dans le monde entier. En 1905, 1906, c'est à Azusa Street. Ensuite, ce réveil va partir en Suède, en Angleterre, etc. Et aujourd'hui, on estime entre 600 et 700 millions de pentecôtistes ou de charismatiques, appelez-la comme vous voudrez, hein, qui, sur la terre entière, eh bien, bénissent le Seigneur d'un héritage spirituel. Une jeune fille a eu foi le 1er janvier 1901. Elle a inauguré, j'allais dire, ce siècle d'une manière extraordinaire, hein, mais elle a eu cette foi dans les Écritures. Alors qu'il en soit ainsi pour nous ce matin, Dieu est fidèle, Dieu est bon, hein, et cette Pentecôte, eh bien, elle est pour chacun d'entre nous, nous qui aspirons, que le Seigneur nous renouvelle ce matin. Amen. Et qu'ensemble on puisse le bénir de tout notre cœur. Amen. Est-ce qu'on pourra avoir encore un temps de sainte cène et dans ce moment de sainte cène, eh bien pouvoir nous réjouir, hein, de la grâce de Dieu. Demanderai à Marc, à Yvonne et à Marie-Jo, hein, de bien vouloir venir sur le devant pour, eh bien, présenter ce temps de sainte cène. Et puis on pourra chanter un chant aussi. On va le faire a cappella, ce chant qui...